connaissances et témoignages. Présenté par Anne Bernet, l'abbé Guérin.
Bonjour, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Monseigneur Roland, évêque de Belle-et-Ars, qui nous fait l'honneur d'accepter de participer à cette émission. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous-même et à tous nos auditeurs auditrices.
Monseigneur, vous êtes le président de la commission épiscopale pour la vie consacrée. Dans le passé, vous vous êtes particulièrement occupé de la formation des séminaristes. Dans un monde aussi déchristianisé que le nôtre et face à la crise des vocations, quelle est l'importance de ces missions ?
Eh bien, il est capital dans l'Église, dans la société, d'avoir ces vocations spécifiques que sont d'une part les vocations de prêtres, d'autre part les vocations de consacrés, parce que ce sont des témoignages qui nous manifestent que le Christ peut remplir une vie, hein, voilà, une vie consacrée manifeste eh bien l'absolu de Dieu qui l'emporte sur toute autre considération. Surtout ce qui habituellement peut attirer l'être humain, le désir de posséder, le désir de dominer. Et donc d'un seul coup, on voit des personnes qui ont fait un choix qui est dicté par la rencontre du Christ qui a déterminé l'orientation de toute leur vie. Et puis pour ce qui est de spécifique pour les prêtres, eh bien, voilà, des personnes qui sont là pour signifier par les sacrements la présence du Christ qui est agissant. Alors je dirais que pour qu'on ait des hommes et des femmes qui entendent l'appel à consacrer leur vie au service du Seigneur, il faut d'abord qu'on ait des chrétiens, parce que les personnes qui sont appelées à répondre à une vocation particulière sont d'abord des personnes qui ont rencontré le Christ, et donc pas pour ça, il faut qu'ils aient pu rencontrer des chrétiens qui leur aient fait rencontrer le Christ. Je vois par exemple qu'aujourd'hui, à Rome, on travaille sur la ratio, c'est-à-dire le document qui universellement règle la formation des séminaristes, et il insiste beaucoup sur le fait que des hommes qui se préparent à devenir prêtres, il faut d'abord que ce soit des chrétiens, d'abord des gens qui aient rencontré le Christ et qui vivent en disciples du Christ de manière authentique.
C'est extraordinaire, Monseigneur, parce qu'en fait, on a l'impression que cela va de soi, qu'un séminariste, un futur prêtre, est un disciple du Christ. Est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas fatalement le cas dans les séminaires ?
C'est pas toujours le cas, quand on, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas nouveau. Hein, quand on regarde Saint-Jean de Paul, par exemple, il y a 4 siècles, voilà, il s'est attaché à organiser la formation des séminaristes, organiser la formation même des prêtres, parce que bah, il s'aperçoit qu'il y avait des gens qui s'étaient engagés dans une carrière, hein, comme lui-même d'ailleurs au départ. Donc il s'agissait de leur faire rencontrer le Christ, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment être des témoins du Christ. On n'a jamais fini de devenir chrétien, ce n'est pas chrétien une fois pour toutes, c'est pas le fait d'être baptisé qui fait de nous un chrétien. Il faut ensuite vivre ce baptême, donc rencontrer le Seigneur, donc je crois que c'est un travail de tous les temps et de chaque instant. Hein.
Notre abbé Guérin, le petit curé de Pomain dont nous avons ouvert la cause de béatification il y a 3 ans, tout comme le curé d'Ars, s'est voulu l'artisan d'une nouvelle évangélisation dans la France déchristianisée des lendemains de la Révolution, qui ressemble par bien des aspects à notre propre époque. Selon vous, Monseigneur, quel est ou quel devrait être le rôle des prêtres et des évêques dans notre société ? Quel espoir pourrait-il apporter à nos contemporains déboussolés ?
Eh bien, je crois, et ça rejoint un petit peu la première question, c'est qu'il faut d'abord que ce soit des gens qui soient des disciples authentiques. Hein. C'est le pape Paul VI qui rappelait que notre société a plus besoin de témoins que de maîtres. Et que s'il y a des gens qui reconnaissent comme des maîtres, c'est d'abord parce que ce sont des témoins, c'est-à-dire des personnes qui, dans l'exemple de leur propre vie, manifeste hein, concrètement la suite du Christ. Donc je crois que le rôle des prêtres et des évêques dans notre société, c'est d'abord de prendre l'évangile davantage au sérieux, de ne pas être des fonctionnaires, entre guillemets, comme on dit parfois, mais d'être d'abord des disciples authentiques qui fréquentent le Christ, qui le suivent, qui prennent au sérieux les exigences de l'évangile, l'enseignement du Christ, et qui manifestent voilà, qu'il y a un chemin de bonheur authentique à vivre en ami du Christ. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est qu'en nous convertissant nous-mêmes, en étant davantage chrétiens, que l'on pourra aider d'autres autour de nous à découvrir la beauté de l'évangile.
En tant qu'évêque de Belley, Monseigneur, vous êtes aussi l'évêque d'Ars. Pouvez-vous nous dire quelle importance revêt pour vous la figure de Saint Jean-Marie Vianney ? En quoi un prêtre du XIXe siècle peut-il encore éclairer l'humanité et l'Église du XXIe ?
Alors moi j'aime bien faire le parallèle entre l'époque contemporaine et puis l'époque de Saint Jean-Marie Vianney, parce que quand on regarde la situation de notre pays à l'époque de Jean-Marie Vianney, Eh bien, les campagnes, on n'a rien à envier par rapport aux campagnes d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fréquentait les églises. Il y avait une dissolution des mœurs, une absence de prise au sérieux de Dieu. Donc, quand on voit qu'il y a eu un tel développement de la foi chrétienne au XIXe siècle, après, voilà, on voit qu'une situation n'est jamais une situation sans issue. Que si des gens prennent l'évangile au sérieux, s'ils se convertissent, eh bien, ils peuvent enflammer énormément de gens autour d'eux. Donc, je crois que ce qui marque la figure de Saint Jean-Marie, c'est quelqu'un qui était fortement épris du bon Dieu hein, et fortement épris de l'amour pour les gens qui lui étaient confiés. Eh bien, voilà, si on a à la fois cet amour fou pour le Seigneur et cet amour des gens qui nous sont confiés, s'il n'y a pas de mépris pour eux, mais le désir de les servir et de les aider à grandir dans la foi, dans l'espérance de la charité, eh bien, je crois que les hommes qui aujourd'hui ont la même attitude que Jean-Marie Vianney autrefois peuvent faire des merveilles.
Monseigneur, vous avez choisi une très belle devise épiscopale, proclamer la bonne nouvelle. Pourriez-vous nous expliquer ce choix ?
Eh bien, c'est un peu irrationnel, parce que c'est d'abord quelque chose qui m'a été donné d'en haut, hein. C'est quelque chose qui m'a été donné à la fin de mes exercices spirituels et les 30 jours avec Saint Ignace, là. Et puis, quelque chose qui m'est venu comme une évidence en me préparant, enfin, à ma retraite de préparation à l'ordination épiscopale. Et je trouve que c'est essentiel parce que voilà, proclamer la bonne nouvelle, bien, c'est la finale de l'évangile selon saint Marc, hein, et voilà, c'est le Seigneur qui nous dit ce qu'on a à faire. Et donc il s'agit pour nous d'aller à l'essentiel, d'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pas quelque chose, mais la bonne nouvelle, c'est quelqu'un, c'est la personne du Christ, hein, c'est annoncer Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu, qui nous rejoint dans notre humanité, qui vient cheminer avec nous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette devise et qui va vraiment au cœur, hein, l'annonce de la foi. Et puis parce que aussi, ben, c'est un ordre que le Seigneur nous dit, hein, et voilà, il faut qu'on ose proposer la foi à nos contemporains, qu'on ne les prêche pas de la vérité. Alors après, ben, on n'a pas de pression à faire sur les gens, mais il faut au moins qu'on les mette en face de la personne du Christ, on leur donne l'opportunité de rencontrer le Christ pour rencontrer le vrai visage de la miséricorde.
Comme l'aurait dit Sainte Bernadette, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire.
Exact, exact.
Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui, ni pour un simple chrétien, ni pour un évêque, je suppose. Il y a quelques années, Monseigneur, votre diocèse a été victime d'une série de profanations et vous avez pris une décision radicale. Terrible même, vous avez décidé de faire retirer le Saint-Sacrement des tabernacles qui sont restés à votre demande grands ouverts, afin de souligner, je pense, le vide de l'absence de Dieu. Vous avez donné ainsi une catéchèse un peu rude, mais remarquable. Pourriez-vous nous parler de l'importance de la présence eucharistique et par conséquent du sacrifice de la messe ?
Alors, de fait, il ne faut pas dissocier la présence eucharistique. L'eucharistique, on le conserve au tabernacle de la célébration de la messe. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les règles qui sont données, que pour qu'un lieu dans une chapelle d'une communauté religieuse, par exemple, ou une chapelle, un oratoire d'un établissement scolaire, pour qu'il puisse y avoir la conservation de l'eucharistie, il faut qu'il y ait régulièrement la célébration de l'eucharistie. Donc, on ne peut pas dissocier les deux aspects. Conserver le Saint-Sacrement, bah, c'est manifester que le Christ est avec nous tous les jours. Hein. C'est-à-dire que le don que le Christ lui-même, qu'il a fait une fois pour toutes sur la croix et le mur, bah, ce don, il est actuel. Ce don, il est présent et il nous fait vivre aujourd'hui et maintenant. Donc si j'ai pris cette mesure, effectivement, comme vous dites, c'est rude, ça a permis aux gens de mieux saisir l'importance de cette présence du Christ et ça renouvelait, je dirais, l'ardeur des gens pour venir prier à l'église. Ça a renouvelé l'attachement des gens à l'Eucharistie. Je vois que, par exemple, dans les célébrations de réparation, les gens sont venus très nombreux, alors que c'est des célébrations qu'on vient d'improviser en plein milieu de semaine, et c'est pas très facile pour remonter tout le monde. J'étais assez marqué de voir qu'il y avait des gens de toute génération, des gens pratiquant réguliers comme non réguliers, qu'il y avait des élus qui se déplaçaient. Donc voilà, que ça permet de mieux prendre conscience de l'importance de cette présence du Christ avec nous tous les jours.
Par conséquent, Monseigneur, d'une certaine manière, vous avez, par l'absence, creusé dans les hommes la fin de Dieu.
Oui, tout à fait. Hein. Ça a fait un effet d'électrochoc. Ça a permis de prendre conscience de cette importance de la présence du Seigneur.
Et finalement, est-ce que vous avez pu revenir sur la mesure ?
Bien sûr, comme toujours, c'est une mesure médicinale, hein, c'est fait pour faire réagir, puis pour que les gens prennent les moyens. Mon objectif, c'était que les églises soient ouvertes, hein, le plus possible, mais que pour qu'elles puissent être ouvertes, eh bien que les tabernacles soient suffisamment sécurisés, qu'ils ne puissent pas s'ouvrir d'un moindre coup de poing, ou que les services puissent être forcés. Donc, en de nombreux endroits, très rapidement, les prêtres, avec l'aide de différents fidèles, pratiquants ou non pratiquants d'ailleurs, voilà, ont pris des dispositions pour que les tabernacles soient renforcés, pour qu'il y ait une surveillance des églises, pour que justement les églises soient ouvertes à la prière et que chacun puisse y entrer et rencontrer le Seigneur dans la prière.
Autrement dit, une fois de plus, d'un mal est sorti un bien.
Toujours, hein, voilà, le Seigneur se sert de tout, hein, même des situations les plus difficiles, il s'en sert pour nous faire progresser.
Monseigneur, vous avez la réputation d'être un évêque qui ne pratique pas la langue de buis. C'est peut-être pourquoi vous avez un jour confié que Saint Jean-Baptiste est votre saint préféré. Pourquoi cette admiration vers le précurseur?
Alors, je dis souvent que Saint Jean-Baptiste, il est un peu la figure de tout chrétien et figure du ministre ordonné en particulier, parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui désigne le Christ. Hein. J'aime beaucoup le retable d'Issenheim à Colmar, là où on voit le doigt pointé de Jean-Baptiste qui désigne le Christ. Hein. Voilà. Donc Jean-Baptiste, il désigne le Christ et il permet à chacun de voir le Christ et de se mettre en relation personnelle avec le Christ. Et lui-même, il s'efface. Hein. Il est celui qui dit, bah, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Voilà. Donc c'est passé discrètement. Il ne s'agit pas de s'imposer. Et puis en même temps, Jean-Baptiste, bah, il a une parole libre. Hein. Là, quand il parle avec Hérode, bah, il dit à Hérode bah, qu'il n'est pas dans la vérité. Et j'aime beaucoup parce que j'ai cette conviction que quand on a une parole vraie, qui est pour l'amour des gens, qui n'est pas méprisante, eh bien, on rejoint l'interlocuteur en profondeur. Voilà. Chaque personne humaine est travaillée en profondeur par l'Esprit Saint qui nous devance toujours. Et il y a toujours au fond de l'être humain une recherche de Dieu, une recherche de la vérité, une recherche de la vie. Et donc, voilà, si on aime les personnes et si on leur dit la vérité, comme le fait Jean-Baptiste, eh bien, il y a forcément un écho dans le plus intime de la personne.
Outre Saint Jean-Baptiste, Monseigneur, vous aimez Saint Ignace de Loyola et Saint François de Sales. Quel point commun entre ces deux saints?
Eh bien, je les aime beaucoup parce que c'est des gens qui accompagnent les personnes qu'ils rencontrent, qui les accompagnent pour les aider à grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Quand on relit, par exemple, l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, alors bien sûr avec un texte qui était traduit en français contemporain, mais c'est d'une très, très grande actualité, quoi. Et on voit comment l'un et l'autre, ils aident les personnes, ils prennent là où sont les personnes, et puis ils aident à cheminer pour venir à la foi. Et on voit d'ailleurs, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup chez le pape François, on voit bien qu'il est jésuite, hein, et donc il a ce souci d'accompagner les gens, les faire grandir sur le chemin en marchant avec eux, en marchant à leurs pas. Alors, moi j'aime beaucoup là, ces deux grands saints parmi d'autres, hein, et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de redécouvrir la place des saints. Le Concile Vatican II nous a rappelé que nous étions tous appelés à la sainteté, et le pape Jean-Paul II a développé les béatifications, canonisations, précisément pour que nous ayons sous le regard une multitude de saints et de saintes, que nous voyons des frères et sœurs aînés dans la foi, de toute nation, de toute époque, de toute condition sociale, pour montrer voilà, concrètement que nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. Ouais. Donc les saints, ben, ce sont des grands frères, des grandes sœurs qui nous encouragent, qui nous stimulent. Alors nous avons à les imiter, non pas faire un copier-coller comme à l'ordinateur, mais regarder comment eux, ils ont répondu aux appels du Seigneur dans un contexte donné, comment ça doit nous encourager nous-mêmes à nous laisser éclairer, guider par l'Esprit Saint pour nous aussi répondre à cet appel à l'amour, à la perfection de l'amour, là où nous sommes aujourd'hui.
Oui, c'est l'enseignement, Monseigneur de Lumen Gentium, qui rend en quelque sorte la sainteté accessible et n'en fait plus voilà. Cet idéal impossible que seuls quelques privilégiés pouvaient espérer atteindre.
Exactement, tout à fait.
Au lendemain des attentats qui ont endeuillé Paris l'an dernier, Monseigneur, vous avez dit que notre société qui transgresse l'interdit du meurtre engendrait fatalement la violence et la haine en produisant une jeunesse perdue. Comment l'avortement et l'euthanasie, en faisant de la transgression du respect de la vie humaine un droit ou quasiment un droit, peuvent-ils aboutir à ce résultat?
Derrière ça, c'est ce que le pape François appelle l'autoréférentialité. Voilà, c'est l'être humain qui ne se situe plus comme créature devant le Créateur, qui ne reçoit pas sa vie comme un don, et qui ne reçoit pas toute vie comme un don, et qui ne reçoit pas donc la valeur inestimable de toute existence. Et donc c'est l'ouverture à l'arbitraire quand on est autant autoréférentiel, quand on prend sa personne ou son groupe de personnes comme référence, eh bien du coup c'est arbitraire parce que bah, chaque personne ou chaque groupe aura des références différentes. Et donc, si c'est cela, ça ne peut qu'engendrer des relations de violence les uns avec les autres. Donc, nous sommes fondamentalement créatures, issues d'un même créateur qui nous constitue comme frères et sœurs, et c'est lui qui donne la valeur à toute vie humaine. Et donc, si nous perdons la référence au créateur, si nous reprenons la référence au père, nous ne pourrons plus nous considérer comme frères et sœurs, mais nous considérer comme des ennemis, comme des rivaux. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il y a derrière, d'essentiel, nous resituer face à Dieu qui est le maître et la source de toute vie.
Oui, sans cela, on en revient à la transgression luciférienne, vous serez comme des dieux.
Oui. C'est le Seigneur qui nous donne d'avoir part à sa divinité. Hein. C'est le Seigneur qui, par un don gracieux de sa part, nous met en communion avec lui, mais ce n'est pas nous qui pouvons accéder à la vie, on ne peut pas se donner la vie.
Vous êtes, Monseigneur, je crois, le plus grand spécialiste français de Hans Urs von Balthasar, qui est un très grand théologien. Vous avez notamment préfacé 5 contributions à une théologie de la vocation. Pourriez-vous évoquer brièvement pour nos auditeurs la personnalité et l'œuvre d'Urs von Balthasar et nous dire quelle est l'importance de sa pensée dans l'Église actuelle? Vous avez même dit que vous aimeriez le voir élevé au rang de docteur de l'Église. Pourquoi?
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. Hein. Voilà, j'aime beaucoup Hans Urs von Balthasar, mais il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour parler, poser sa contribution théologique. J'aime beaucoup ce théologien parce que c'est quelqu'un qui a une vie très unifiée. On a toujours tendance à dissocier l'aspect de recherche intellectuelle, l'aspect de sainteté de vie, l'aspect de piété. Et chez lui, voilà, il y a quelque chose qui est profondément uni. Alors, je crois que c'est d'ailleurs une caractéristique de cette théologie, c'est que quel que soit le sujet, le bout par lequel vous prenez cette théologie, il y a toujours une vision qui est globale et toujours une vision trinitaire. Là. Il a toujours ce souci lorsqu'il traite d'un sujet ou d'un autre, parler d'un sacrement, parler de l'Église, va toujours nous faire entrer dans cette vision trinitaire. Et c'est ça qui fait que c'est équilibré. Et puis, il a toujours aussi cette capacité de l'intégration, c'est-à-dire que il ne rejette pas la pensée d'un autre, mais voilà, il est capable de l'intégrer dans sa réflexion et il est capable de montrer comme le Christ récapitule tout. Alors, une fois, c'est vraiment pour cela qu'il est très précieux pour notre temps. Alors, il est encore très méconnu parce que beaucoup de ses œuvres ne sont pas encore traduites en français. Il y a du retard là-dessus. Alors, tout fort heureusement, là, on vient encore de traduire un ouvrage sur les états de vie qui ont été publiés il y a quelques semaines. Donc, j'engage beaucoup nos auditeurs à lire. C'est pas toujours facile. Il y a des ouvrages qui sont d'accès facile, d'autres plus compliqués. Mais il y a toujours une richesse, par exemple, à lire un livre à plusieurs. Il faudra faire un petit cercle de lecture et puis lire ensemble chapitre par chapitre.
Et j'ajoute à l'attention de nos auditeurs que je pense personnellement que c'est une lecture relativement limpide par rapport à d'autres théologiens. Bien sûr, certains textes sont plus difficiles. Mais dans l'ensemble, Urs von Balthasar reste quelqu'un de relativement accessible.
Oui, tout à fait. Alors, il y a différents types d'ouvrages et il ne faut pas commencer tout de suite par les plus difficiles. Il faut se faire guider. Mais voilà, c'est vraiment, je crois, quelqu'un qui apporte beaucoup à notre temps. C'est un peu le saint Thomas d'Aquin du XXe siècle.
Monseigneur, quels sont les sanctuaires mariales principaux de votre diocèse?
Alors nous, on n'a pas ici dans le diocèse de grands sanctuaires marial, mais on a beaucoup d'églises, comme dans de nombreux diocèses, beaucoup d'églises qui sont dédiées à Marie. Et puis on a aussi dans nos campagnes souvent des petits lieux de pèlerinage estivaux dédiés à Marie. On a surtout ici à Bourg-en-Bresse la co-cathédrale, puisque la cathédrale est à Belley, mais Belley est une ville qui est excentrée par rapport à l'ensemble des diocèses. Donc au cœur du diocèse, là où je réside, il y a une deuxième cathédrale, une co-cathédrale, et c'est Notre-Dame. Alors Marie, elle a une place capitale parce que c'est la première des disciples et parce qu'elle est le prototype de l'Église. Quand on regarde Marie, on voit quelle est la vocation de l'humanité. Et je crois que plus on regarde Marie, plus on est conduit au Christ parce qu'on voit comment elle est. Elle est la première à coopérer pleinement à l'œuvre du Christ et donc à l'œuvre de Dieu en ce monde. Donc en suivant Marie, on se laisse habiter, agir par l'Esprit Saint pour que l'œuvre du Père s'accomplisse en ce monde par Jésus-Christ. Voilà, c'est vraiment cela qu'elle est notre mère. Une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend à ses enfants à réussir à leur existence. Elle est éducatrice. Eh bien, Marie, elle est cette éducatrice, celle qui nous apprend à vivre notre condition de créature, notre condition d'enfant de Dieu, et qui nous apprend à collaborer à l'œuvre de Dieu en ce monde.
Quelle devrait être la place de la dévotion mariale dans l'Église en France aujourd'hui, selon vous, Monseigneur?
Eh bien, je crois qu'elle doit avoir sa place toute naturelle, quoi. C'est qu'il ne s'agit pas de rajouter quelque chose, mais d'accueillir Marie, encore une fois, là, comme celle qui est la mère de l'Église, hein. C'est comme ça qu'on la désigne traditionnellement. Elle est à la fois mère de Dieu et mère de l'Église, et donc apprendre à vivre à son école, et notamment à rendre grâce à Dieu. Moi, je suis toujours frappé de voir que Marie, elle prend très peu la parole dans l'Évangile, et que sa plus grande prise de parole, c'est une prière, c'est la prière du Magnificat. Et donc, non, c'est pas une magnificate, c'est ce qu'elle fait. Bien, elle chante la miséricorde de Dieu qui s'étend d'âge en âge. Et donc, elle nous invite, nous aussi, à savoir nous émerveiller de l'action de Dieu dans ce monde et à entrer dans l'action de grâce avec elle.
Je vais conclure cet entretien, Monseigneur, par la question que je pose systématiquement aux évêques. Quelle initiative, personnellement, aimeriez-vous prendre en faveur d'un renouveau marial dans notre pays?
Écoutez, je n'ai pas d'idée particulière. Moi, dans mon diocèse, eh bien, j'ai instauré une fraternité magnifica, justement, qui entre dans cette prière de louange. Je crois que c'est important que chaque chrétien puisse prendre Marie chez lui. Hein. C'est ce que nous dit Jésus, voici ta mère. Hein. Et puis Jean, sont là, le disciple Jean, prend Marie chez lui. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun d'entre nous prenne aussi Marie chez soi, parce que, encore une fois, donc Marie, elle est celle qui nous conduit au Christ, hein, qui nous apprend à l'accueillir et l'accueillir pour le redonner aux autres. Donc ce que je souhaite, c'est que chacun puisse prendre Marie chez lui.
Que cela aboutit plus tard à l'apparition. Donc, Monseigneur, je crois que c'est un très beau programme que vous proposez. Merci.
Oui, c'est exactement ce qu'a fait aussi Saint-Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, dont vous parliez tout à l'heure. Bien, Jean-Marie Vianney, il a fait une chapelle dans son église à Marie, avec un cœur suspendu autour de la statue, et dans ce cœur, il y avait le nom de chacun de ses paroissiens.
Merci, Monseigneur, pour cet entretien et ce témoignage. Nous avions la chance d'être ce matin